mes très chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver sur IDFM sur 98.0. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai envie d'évoquer depuis très longtemps. Et puis voilà, je crois que c'est le moment aujourd'hui. Je vais vous parler avec mes invités de la méthode Ho'oponopono. Alors déjà, c'est très difficile à écrire, mais on trouve beaucoup d'ouvrages qui parlent de cette méthode et de plus en plus adaptés à la famille, au couple ou tout simplement à la spiritualité. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille deux spécialistes de renom, donc Claire Burel. Bonjour Claire.
Bonjour Gaëlle.
Alors Claire, vous êtes formatrice, auteure, conférencière, thérapeute, et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes une routino-curiositologue, on y reviendra plus tard, et une enthousiasmeuse. Mm-hmm. Comment ça va Claire aujourd'hui?
Eh bien écoutez, ravie d'être avec vous et je vous remercie de votre invitation.
Merci de l'avoir acceptée. Et on essaye de joindre au téléphone Nathalie Lambois. Alors Nathalie, elle est auteure et formatrice en développement personnel et Philippe est en train de s'occuper de ça. Philippe est aujourd'hui à la technique avec moi et on essaye de joindre Nathalie. Est-ce que Nathalie va nous entendre et va nous rejoindre? Bonjour Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Ah, pas encore tout à fait. On va la laisser venir tranquillement. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nathalie, ça y est, nous sommes ensemble. Je suis ravie de vous accueillir dans l'émission. Je disais que vous étiez auteure et formatrice en développement personnel. Et aujourd'hui, avec Claire Burel qui est à mes côtés, nous allons parler de la méthode Ho'oponopono. Comment allez-vous Nathalie?
Très bien, merci beaucoup Gaëlle. Bonjour aussi à Claire.
Bonjour Nathalie.
Donc évidemment, vous serez tout à fait libre d'échanger. Vous avez une façon évidemment différente de pratiquer la méthode puisque nous sommes tous différents et c'est ça qui est très riche. Alors, pour commencer, moi ce que j'aime bien, c'est revenir un peu sur les parcours de vie. Je trouve que dans les parcours de vie, il y a toujours des choses incroyables et qui montrent un petit peu ce que va devenir la pratique, comment elle va être incarnée par la personne qui la propose. Nathalie, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes venue à découvrir la méthode Ho'oponopono?
Bonne question. En fait, j'ai une formation très cartésienne. J'ai fait des études de biologie, j'ai été formée en informatique. Je suis diplômée en tant qu'acheteur approvisionneur. Donc, j'ai un parcours extrêmement cartésien. Et à un moment de mon existence, j'ai découvert un autre univers, un monde plus subtil, qui me parlait beaucoup et je l'ai découvert grâce au Feng Shui. Le Feng Shui qui est cet art traditionnel chinois qui permet de entrer en harmonie avec son habitat et de faire en sorte que les habitants se sentent mieux. Et c'est par cette porte de la maison que j'ai découvert le monde du subtil et ensuite j'ai fait des voyages, j'ai rencontré des guérisseurs qui guérissaient de façon assez étrange puisqu'ils utilisaient leurs mains, leur énergie. J'ai vu et j'ai assisté à des scènes assez magiques, on peut dire, et qui m'ont permis de comprendre que notre univers n'est pas uniquement composé de cette matière, mais que au niveau un peu plus fin, au niveau plus subtil, il y a une énergie, il y a quelque chose qui circule, et que on est tous amenés à pouvoir l'utiliser de façon plus ou moins consciente. Et lorsque je suis entrée dans ce monde du subtil, alors il y a eu Feng Shui, mais il y a eu d'autres choses qui m'ont intéressée, comme les soins énergétiques, bien sûr, mais aussi tout ce qui était lié à la psychogénéalogie, le parcours des individus. Comme vous dites, c'est très intéressant de comprendre le parcours des personnes, effectivement. La psychogénéalogie qui permet de comprendre le parcours le parcours familial, notre histoire, mais aussi celle de notre famille que l'on va emmener avec soi. Et puis, je me suis intéressée de plus en plus au développement personnel qui signifie partir de l'intérieur de soi pour rayonner vers l'extérieur. En tout cas, c'est ma définition. Et sur ce parcours de développement personnel où j'ai été formée à des outils dits psycho-énergétiques comme le EFT, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Emotional Freedom Technique.
Mm-hmm. Et par tapotage permet de libérer des blocages. Pour moi, toute cette notion de libérer des blocages me paraît vraiment bien. On libère des blocages dans la maison, on libère des blocages en soi avec l'OVFT et d'autres outils. Et c'est à ce moment-là de ma vie qu'est arrivé le Ho'oponopono. J'allais en clientèle, j'allais chez les personnes faire du feng shui. Je partageais donc toutes mes connaissances de la maison, mais aussi tout ce que j'avais absorbé en psychogénéalogie, etc. Et je faisais des thérapies, on va dire, familiales. Et c'est à ce moment-là que le Ho'oponopono est entré dans ma vie comme un outil qui résumait tout ce que je faisais jusqu'à présent. Et vraiment, je me suis dit, cet outil-là, cette pratique, parce que ce n'est pas un outil, mais cette pratique-là, elle permet vraiment d'aller au fond des choses, au fond de soi. Et ça a été le coup de foudre. Elle ne m'a plus lâchée, cette pratique, hein, parce que j'avais pris beaucoup de choses, mais il y avait des... Je ne sais pas si Claire a eu beaucoup de formations, a suivi beaucoup de formations, mais quand on suit beaucoup de formations, il y en a quelques-unes que l'on fait pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis qui s'en vont. Et celle-ci, la pratique du Ho'oponopono, ne m'a jamais lâchée. Alors, évidemment, la maison, le feng shui, tout ça, c'est toujours intégré en moi, mais c'est pas aussi fort que cette pratique hawaïenne.
C'est vraiment la découverte.
Je commence à comprendre l'interaction entre les habitants et la maison, et surtout l'influence que chacun pouvait avoir sur son environnement. Rien n'arrive par hasard, et si on est confronté à certaines situations, c'est qu'il y a quelque chose en compte.
On y reviendra de toute façon aussi sur l'origine, oui. Sur le côté puissant de cette pratique, comme vous dites, donc non pas seulement une technique, mais quelque chose qui nécessite de l'entraînement. Et Claire, alors Claire, vous avez un parcours aussi jalonné de plein d'expériences un peu différentes.
Alors différentes et en même temps, ouais. C'est très amusant parce que Nathalie, nous avons beaucoup de points communs, vous et moi.
Déjà, on allait au Ho'oponopono en commun.
Alors, c'est certainement pas l'un des moindres, mais moi aussi j'ai fait de l'informatique, moi aussi je suis hyper cartésienne, et donc ça fait déjà des petits échos comme ça. Moi aussi je m'intéresse beaucoup au feng shui, mais je suis pas encore passée par la case formation parce que c'est très très long et que il faut vraiment se donner à fond, mais ça m'intéresse de plus en plus. Et comme je suis une insatiable curieuse, j'ai effectivement dévoré beaucoup de domaines comme cela, l'énergétique bien sûr, les soins énergétiques. Alors je ne fais pas l'EFT, mais je fais les 7 la taïf qui ressemblent un petit peu, et je fais aussi les mouvements alternatifs. Je suis donc en fait, ce qui s'est passé dans mon parcours, moi j'étais enseignante à la base, avec des petits en maternelle, et je trouve extraordinaire la façon dont les petits vivent la vie, qui est très très différente de la façon dont on se complique nous la vie, c'est pas du tout pareil.
Beaucoup plus intuitive, beaucoup plus joyeuse,
plus immédiat,
plus immédiat.
Plus immédiat et plus dans l'instant présent en fait. Et c'est pas du tout le même questionnement et c'est pas du tout les mêmes réponses qu'on s'apporte, et j'aime beaucoup leur façon d'envisager les choses. Donc on s'entendait très très bien là-dessus. Et puis il y a eu un moment de ma vie où il y a eu une espèce de on fiche tout en l'air et on recommence, quoi. Ça a été assez chaud, hein, faut avouer, ça a été assez difficile, et c'est une période dans laquelle il a fallu, moi qui me posais pas trop de questions, que je commence à me trouver des réponses. Et donc ces réponses, je suis allée les chercher un peu partout, dans le côté spirituel des choses. Alors j'avais une éducation religieuse, mais c'est pas du tout la même chose. Le côté spirituel des choses et la compréhension de ce qui m'arrive et comment je fais pour en sortir. Et à partir de là, en quelques années, parce que c'est jamais immédiat, j'ai changé complètement donc mon activité professionnelle, j'ai tout changé en fait, j'ai gardé que ma mutuelle, comme je dis d'habitude, c'est la seule chose que j'ai pas changé. Et puis à partir de là, effectivement, ce parcours de découverte non-stop dans toutes les directions, puisque je suis à la fois curieuse et insatiable. Et donc le Ho'oponopono faisait partie de ces directions-là, et avec un jeu que ma fille m'a offert à un Noël, il y a de ça peut-être une dizaine d'années, qui a été ma première approche du Ho'oponopono.
D'accord.
Un jeu que Nathalie connaît bien. Pardon.
Oui, je vois très bien de quel.
Voilà, avec des fleurs partout.
Voilà.
Est-ce qu'on peut nous en savoir plus, ou est-ce qu'on est dans la private joke?
Non, c'est pas une private joke. C'est un des premiers jeux Ho'oponopono qui a été présenté, d'accord, sur le marché, je pense, et qui présentait un grand nombre de cartes avec des valeurs riches dessus, et puis des belles photos de fleurs. Voilà. D'accord. Et puis il y avait les 4 petits galets. Désolé, pardon, merci, amour.
Voilà, c'est ça. C'est un jeu qui a été créé avec Luc Baudin, qui était mon mari à l'époque, parce que nous sommes divorcés depuis. Et voilà, donc grandement participé à l'hébergement.
Ce qui est un de nos points communs supplémentaires, Nathalie. Le petit clin d'œil entre vous et moi. Et on s'est déjà croisés aussi, vous et moi, mais c'est normal que vous en rappeliez pas.
Ah, dans un stage, d'accord.
Mais pas un stage à vous.
Oui, ça je me doute, c'était avec vous, bien sûr.
Voilà.
Voilà, bon, bah moi je vais vous laisser, les filles. Hein.
Bon, alors pour continuer sur mon parcours, eh bien, je me suis formée à l'hypnose, je suis devenue thérapeute avec l'hypnose pour arriver à apaiser les difficultés que les autres peuvent avoir dans leur vie, puisque j'avais plus ou moins réussi à apaiser un petit peu les miennes. Ça se fait pas en claquant des doigts, mais on est sur le chemin en tout cas. Et puis petit à petit, donc devenue aussi auteur en développement personnel. Je suis à mon 10e ouvrage qui sort au mois de novembre. Dans toutes sortes de directions, parce que je suis une curieuse, voilà, donc ça va dans tous.
Vous avez toutes les deux une bibliographie très impressionnante. Ça, c'est un autre point commun.
Voilà.
On redonnera les références aux auditeurs, mais c'est vrai que vous avez écrit toutes les deux beaucoup sur le Ho'oponopono, notamment.
Alors, Ho'oponopono, moi, j'ai le livre, et puis j'ai le jeu, effectivement, qui sont sortis il y a un an et demi et 2 ans. Voilà.
Ok.
Super.
Alors, on parle du Ho'oponopono depuis tout à l'heure, mais moi, j'ai bien envie aussi qu'on revienne à l'histoire de cette pratique ancestrale qui provient d'Hawaï, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu aux sources de d'où ça vient, comment ça s'est construit, et surtout comment c'est arrivé jusqu'à chez nous avec peut-être une forme un petit peu adaptée nécessairement parce que nous ne sommes pas sur le territoire d'Hawaï et que nous ne sommes plus à la même époque de la création de cette pratique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer toutes les deux sur d'où ça vient, le Ho'oponopono, Claire?
Alors, le Ho'oponopono, ça vient effectivement d'Hawaï. C'est arrivé chez nous, j'aurais tendance à dire, dans les années 80. Je pense que Nathalie pense peut-être à peu près les mêmes dates.
Années 80, Nathalie, c'est OK, ça?
Alors, pour les années 80, je ne sais pas trop, puisqu'il y a eu, dans les années 80, en fin des années 80, je sais que Morna Simeona et le Dr Lev, qui sont à l'origine de la formule que l'on connaît aujourd'hui, de la pratique individuelle que l'on connaît aujourd'hui, ont commencé à en parler en public, en conférence, dans les années 90 à peu près. C'est assez récent, cette démarche. Et bien sûr que Ho'oponopono a une histoire beaucoup plus ancienne, puisque c'est une méthode millénaire, c'est une pratique qui fait partie d'une autre pratique, puisque ça fait partie de la Huna, c'est-à-dire de tout le savoir que les chamans et les guérisseurs hawaïens avaient. Et voilà, la version de l'origine, c'est plutôt 90. Moi, j'ai fait des recherches au niveau des archives hawaïennes, au niveau surtout...
Bon, c'est au siècle dernier quand même. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et donc, à l'origine, c'est un rituel, c'est bien ça? C'est un rituel de guérison, de pardon?
Je pense que ça va au-delà d'un rituel. Je pense que c'est vraiment une philosophie de vie. Comme le rappelait Nathalie, c'est une partie d'un ensemble. Et cette philosophie de vie portait effectivement les personnes à avoir cette ritualisation, si vous voulez, mais d'une façon assez naturelle, pas quelque chose de très... compliqué, spécifiquement mis de côté pour... Enfin, je pense que c'est vraiment une attitude quotidienne, en fait. C'est une attitude du cœur.
C'est une attitude du cœur.
Oui.
Ça vous irait, Nathalie, comme définition du Ho'oponopono?
Oui, ouais. Je pense que c'est ça. Et c'est vrai que le Ho'oponopono existait sous forme de rituel, comme on pourrait le définir aujourd'hui, mais c'était quelque chose, effectivement, d'assez naturel pour ces personnes qui, en fait, utilisaient la pratique du Ho'oponopono pour permettre à des gens qui étaient en conflit d'en sortir alors qu'ils n'y arrivaient pas toutes seules. C'est-à-dire que dans une communauté, dans une tribu, dans une famille, lorsqu'il y avait des conflits et que ça durait et qu'ils ne trouvaient pas de solution, à ce moment-là intervenait le chaman ou le chef de tribu qui demandait à ce qu'on fasse le rituel du Ho'oponopono avec la présence des individus en conflit, bien évidemment, mais aussi de toute la tribu, de toute la famille qui était là, de toute la communauté. Parce que chacun avait conscience que s'il y avait un conflit entre ces deux individus, c'est que cette forme de conflit était la partie émergée de l'iceberg et que quelque chose de plus profond avait permis la naissance de ce conflit et que chacun était concerné puisque ça arrivait dans la tribu. Ça veut dire que ce conflit, la source vraiment du problème avait pris naissance dans cette société, dans cette tribu. Il n'y avait pas cette idée de dire, ils ont leurs problèmes et puis on les laisse se débrouiller tout seuls. Non, on va permettre à ce problème de s'évacuer en pratiquant le Ho'oponopono, et ça voulait dire exprimer, chacun venait exprimer ce qu'il avait vécu du conflit, sa vision du conflit. Il n'y avait pas forcément de coupable ou de victime, mais plutôt chacun donnait son avis sur le comment, du pourquoi c'était arrivé, de façon à éplucher le problème, comme on épluche un oignon, aller à la source et virer la source, la véritable source du problème. Et là, le nettoyage se faisait. Donc, le rituel se décomposait donc avec une partie où les personnes s'exprimaient. Ensuite, une fois que tout le monde avait pu parler, on en revenait aux excuses. Et chacun s'excusait, puis le pardon, là encore. Et enfin, le partage, il y avait ce moment de la cérémonie où chacun partageait de la nourriture pour célébrer la réharmonisation. Pourquoi réharmoniser? Parce que s'il y a un conflit dans une communauté, je ne sais pas, imaginez les archipels de Hawaï, hein, au milieu de l'océan Pacifique, et il y avait ces petites communautés qui vivent sur ces îles et qui sont soumises aux intempéries, à tout un tas de choses qui peuvent arriver. Il faut qu'il y ait une véritable cohésion dans le groupe pour pouvoir pallier à tout ce qui peut arriver, les impondérables, les intempéries, la sécheresse si on n'a plus rien à manger, donc la solidarité est importante, et même l'arrivée d'autres tribus qui viennent pour combattre. Donc il fallait que vraiment le groupe reste soudé, et on ne pouvait pas permettre à des problèmes, à des conflits de rester comme on fait aujourd'hui. Vous savez, on a des petits conflits en famille, etc. Je m'entends pas avec mon beau-frère, ma belle-sœur, ma belle-mère, mais on n'en parle pas trop, on laisse sous le tapis, et puis le problème n'en finit pas de gonfler, et puis un jour ça explose. Donc là, je pense qu'effectivement, ça devenait assez un mode de vie que de régler les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent, et de ne pas laisser, de prendre sa part de sa responsabilité dans ce qui arrive. Ne pas laisser les autres faire à notre place. Notre responsabilité, c'est voilà, on est face à ce conflit, il y a des gens qui ne s'entendent pas bien dans ma famille, dans mon groupe. Si ça se passe devant moi, c'est que j'ai quelque chose à en apprendre. La responsabilité, le lien qu'il y a avec ces personnes est important. Le lien dans ce conflit existe. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Contrairement à ce qu'on fait dans notre culture moderne.
C'est ça, c'est donc, plutôt, il y a vraiment l'idée du collectif et de la responsabilité partagée par tous les membres de la collectivité.
C'est ça, c'est même pas partagé, c'est chacun a sa responsabilité, point. Oui. Je sais ou je ne sais pas, mais c'est ma responsabilité.
D'accord.
Donc le lien, il est là, il est très fort. Et ça marchait tellement bien, cette pratique qui a été étudiée par les sociologues hawaïens, qu'il faut savoir que dans les années 50, Hawaï est devenue américaine, donc il y avait un bouleversement culturel, etc. La religion chrétienne est arrivée. Et je pense que Morna Simeona, qui est chamane hawaïenne et qui est à l'origine de la pratique que l'on connaît aujourd'hui, a absorbé, on va dire, à la fois ce qu'elle connaissait de ses ancêtres et ce qu'elle apprenait de la religion chrétienne pour en faire quelque chose de vraiment individuel et adapté à notre société. Et ces universitaires et sociologues de Hawaï qui avaient étudié le Ho'oponopono communautaire, traditionnel, l'ont appliqué dans des maisons de redressement, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, là où on met des adolescents en difficulté, et ça marchait très très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Ho'oponopono traditionnel, le fait que chacun parle, s'excuse, s'exprime, eh bien ça ne prend pas une heure ou deux, ça peut prendre des jours. Et il faut avoir une grande disponibilité et du personnel compétent pour pouvoir faire cela sur le long terme. Mais ça fonctionnait bien, ils ont été obligés d'arrêter dans les institutions pour adolescents par manque de personnel et de moyens. Mais c'est dommage parce que ça marchait très bien, le fait de rendre chaque adolescent responsable de ses actes, même si on regarde de loin un événement, on voit deux individus en conflit, deux enfants qui se chamaillent, si ça arrive dans mon existence, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, comment je suis responsable et comment je peux agir face à ce qui se passe. Et ça permettait vraiment de résoudre les conflits
à l'intérieur de
De dégager définitivement de la source. C'est vraiment ça qui est important. On ne va pas régler de façon superficielle, on va régler vraiment de façon profonde.
Alors j'en profite justement. Non, c'est super intéressant. Merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Justement par rapport au côté superficiel, je permets de rebondir justement avec des retours que j'ai eu, des questions d'auditeurs. Alors ah oui. Claire, on m'a dit, mais bon, c'est bien gentil, mais ces quatre expressions, donc désolé, pardon, merci, je t'aime, ça va pas changer toute la vie quand même. Ça paraît tellement simple. Alors, qu'est-ce que vous répondriez, par exemple, à cet auditeur-là? Est-ce qu'on pourrait peut-être décrire un peu ces quatre étapes du désolé, pardon, merci, je t'aime, qui sont en fait les fondements de cette pratique?
Alors, effectivement, c'est pas des mots baguette magique. En développement personnel, la baguette magique, même sous le bureau, elle est pas tombée.
Ah mince alors.
Non. Ça m'arrive souvent de dire aux gens, attendez, je cherche, mais je sais pas où je l'ai mise la mienne. Et puis je sais pas où on en fabrique. Il n'y a pas de baguette magique. Donc effectivement, ce qui va faire la différence, ça va être que ça nous incite à donner du sens, ça nous incite à trouver en nous la ressource qui fait partie de l'évolution des choses. Et ces quatre mots-là sont véritablement très puissants parce qu'ils sont vraiment bien choisis pour nous donner le chemin à suivre pour que les choses évoluent. Alors c'est sûr que tout ce que vient de dire Nathalie sur la façon ancestrale dont on utilisait Ho'oponopono dans notre société occidentale au jour le jour. Je veux dire, vous avez un problème avec votre voisine, ça m'étonnerait fort que vous réunissiez la moitié.
Le conseil syndical
et le conseil de quartier pour arriver à régler le truc. Donc c'est vrai que Ho'oponopono du coup s'est retrouvé un petit peu occidentalisé dans une pratique plus personnelle, je pense, et que cette pratique personnelle, bah, c'est vraiment nous qui sommes responsables, et ça je rebondis vraiment sur cette responsabilité de chacun de comprendre ce qui se passe, de faire avec ce qui se passe et d'apaiser les situations en utilisant la puissance de ces quatre expressions. Alors, pourquoi ces quatre mots-là? Bah, évidemment, c'est pas choisi au hasard. Désolé. Pourquoi je suis désolée? Bah, parce que si la situation n'est pas aussi paisible, harmonieuse qu'on aimerait qu'elle le soit, c'est que quelque part, il y a un moment où il y a un truc qui a coincé. Et le truc qui a coincé, on part du principe que on a eu un petit défaut de maturité sur ce truc-là, on va dire. Dans la méthode hawaïenne originelle, chaque situation, chaque attitude qui correspond aux quatre mots correspond à un personnage. Et le désolé, c'est l'enfant.
D'accord.
Et l'enfant, bah, par définition, s'il est enfant, il n'est pas mature dans toutes ses attitudes. Donc ça peut l'amener à produire à un moment donné une réaction qui n'est pas harmonieuse. Donc l'enfant est désolé d'être immature. Ensuite, le deuxième personnage qui va être là pour continuer la démarche, c'est la mère. Et la mère, elle, c'est le mot pardon. La mère, elle pardonne, mais quelle mère ne pardonnerait pas à son enfant en même temps, hein ? Et le rôle de la mère dans ce pardon, c'est de dire, écoute, puisque tu es désolée, puisque tu reconnais que cette situation n'est pas bien partie, qu'il manque de l'harmonie, puisque tu reconnais ta part d'immaturité, moi je suis toute prête à te pardonner ça, et j'aimerais que tu te pardonnes également, parce que finalement, ce pardon va nous permettre de passer à la suite, d'avancer sur truc, de pas rester sur un écueil, sur une difficulté, un obstacle, sur un conflit.
Et de on pas va ruminer du coup, ça. De
voilà.
Pas le ruminer.
On va le dépasser parce qu'effectivement on a compris qu'à la base il y avait un petit truc qui avait coincé. On a compris qu'on en prenait la responsabilité et qu'on avait envie de le dépasser. Donc pardon, c'est tout à fait à sa place pour ça. Et puis on pardonne aussi dans un conflit évidemment à l'autre, bien sûr, hein, puisqu'on va faire un pardon généralisé. Ça va être plus
avec un grand P.
Voilà. Et puis ensuite on va avoir le père, le troisième personnage dans les quatre positions. Hein. Et le père, lui, son mot c'est merci. Alors, j'ai toujours des personnes qui me disent « Merci, non mais ça va pas. Merci quoi? Merci qui? On vient de passer un moment difficile, il y a un conflit, c'est pas agréable, on se sent mal. Merci ?» Oui, merci. Parce que si cette situation n'avait pas existé, j'aurais gardé cette immaturité sans me poser de questions. J'aurais été encore plus loin peut-être une fois prochaine, j'aurais peut-être fait des dégâts encore plus grands dans une autre situation avec encore moins d'harmonie parce que j'en avais pas pris conscience. Merci pour cette prise de conscience et merci pour l'envie que j'ai de dépasser ça et merci pour le pardon qu'on est en train de partager, de se donner à soi, de donner à l'autre. Et donc ce merci, il est vraiment une ouverture du cœur, de la gratitude envers la vie. J'ai envie de dire que c'est vraiment le merci de gratitude. Et puis la quatrième posture, c'est le je t'aime. Alors il y a des gens qui me disent, moi dire je t'aime c'est hors de question parce que je m'aime pas, et si c'est pour dire je t'aime à celui avec lequel je suis en conflit, c'est pas demain la veille. Voilà. Donc je propose dans ces cas-là, si le mot je t'aime est un peu difficile à dire, de dire amour tout simplement. Pourquoi? Parce que partout où il y a un petit manque de quelque chose, quand on rajoute de l'amour, bah ça fait comme de l'huile dans un engrenage, ça se passe tout seul quoi. Et ce amour, bah c'est quoi? C'est apporter le petit plus qui fait qu'on n'est pas dans une attitude vaine ou banale, ou on est vraiment dans le travail du cœur. Et si on est dans le travail du cœur, alors le résultat du travail du cœur, c'est qu'il y a la paix qui arrive, la sérénité, il y a la possibilité d'ouvrir plus grand.
C'est l'amour inconditionnel en fait, c'est ça, de dire ça aux gens qu'on apprécie, c'est simple, mais de dire ça aux gens qui nous ont fait du mal, on est dans une dimension beaucoup plus grande.
Tout à fait, et ça va très très bien après la gratitude, c'est vraiment l'ouverture du cœur.
Nathalie, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de rajouter sur ces quatre étapes qui, sous couvert d'utiliser des mots assez simples, sont pas toujours évidente à mettre en pratique.
Oui, bien sûr. Il m'a fallu du temps aussi pour intégrer la signification de ces mots et la définition qu'en dit Claire, en fait, elle est très bien. Je la dis un peu différemment et c'est original, mais ça revient au même. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est que c'est pour vous, vous le récitez en vous et pour vous en silence. Désolé, c'est vraiment pour revenir, prendre conscience, prendre de la distance par rapport à ce qui vous arrive. Le pardon, c'est comme on comprend qu'on est créateur de ce qu'on a dit, comme l'a dit Claire, on n'a pas eu la maturité à un moment donné d'avoir des actions correctes. Et aujourd'hui, on se prend une situation qui est née parce qu'on a fait en sorte que ça arrive, parce que c'est ça aussi, Ho'oponopono, c'est prendre conscience qu'on est créateur de sa vie et que tout ce qui nous arrive, le pire comme le meilleur, est né de nos actions. C'est-à-dire qu'on a fait des choix. On ne fait que des choix dans une existence. Et ces choix nous ont amenés à être confrontés à des personnes super sympas et à d'autres beaucoup moins agréables, à des situations vraiment géniales et à d'autres dont on aimerait évidemment se passer. Mais la force de ça, c'est que comme on est créateur, pas forcément, mais comme on a fait ses choix, on peut aussi agir. C'est-à-dire que comme on est acteur, et ben si ça ne nous plaît pas, la vie que l'on a, si ça ne nous plaît pas, ces situations, eh bien on peut les changer. Et on n'a pas à attendre des autres.
Donc, pratique Ho'oponopono, c'est tous aux victimes de sa vie. On comprend, on est créateur,
pour prendre conscience qu'on est acteur. Et même si on décide que c'est aux autres de choisir, c'est quand même une autre décision. On a toujours le choix.
On a
contrairement
toujours
à ce que j'ai cru pendant des années, on a toujours le choix de dire oui ou de dire non, de dire même si ça fait peur, bien sûr que c'est effrayant par moment, on dit mais j'avais pas le choix parce que si je prenais une autre solution, peut-être se passer quelque chose de dramatique, mais c'est quand même notre choix. Donc c'est la première fois qu'on m'a parlé du Ho'oponopono, on m'a dit, tu sais Nathalie, avec Ho'oponopono, tu es 100% responsable de ta vie. Et moi, j'ai trouvé ça, mais libérateur. Mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mmh. On est responsable de tout ce qui arrive dans notre vie, de tout. C'est-à-dire qu'on a une situation désagréable, on reçoit une mauvaise nouvelle. C'est ce que l'on en fait qui compte.
Quel que soit le contexte, même s'il est contraint, puisque là vous donnez des exemples justement d'application au tout début de Ho'oponopono dans des situations de violence, entre adolescents, etc. Même dans des contextes comme ça, on a toujours une petite marge de manœuvre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mmh. Alors évidemment, je ne parle pas des enfants. Mais les enfants, pour moi, ce sont des êtres, je parle des enfants jusqu'à 10-11 ans, des êtres que l'on doit protéger. Mmh. Ils ne sont pas la responsabilité que l'on a, nous, c'est en tant qu'adulte, de protéger tous les enfants, même s'ils n'appartiennent pas à notre famille. Mais ensuite, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, une fois que l'on est formé, une fois que l'on a grandi, eh bien, c'est nous qui avons le choix de garder ou pas une façon de faire, une façon d'agir, une façon de penser. C'est nous qui avons notre choix de garder certaines peurs. Et le travail que l'on fait sur soi, il est là. C'est est-ce que je continue de fonctionner comme j'ai fait pendant des années ou est-ce que je change?
Et on a toujours le choix, vous dites. Alors, je vous propose qu'on on reste.
Je peux dire dans notre vie, j'ai dit oui à votre, par exemple, vous m'avez demandé d'intervenir à votre émission. J'ai dit oui, j'avais le choix de dire non.
Oui.
Et c'est une succession. Et sinon, et si j'avais dit non, je n'aurais pas revu Claire.
Et du coup, on s'adresse un grand merci de gratitude pour cette présence.
Donc voilà, ça c'est le pardon. Et ensuite, le merci, il a une puissance d'entrer dans la gratitude. Quand vous dites merci, vous n'êtes plus dans la peur. Franchement, quand je vais mal, quand je suis pas bien du tout dans ma journée, que j'ai quelque chose qui ne va pas, et oui, ça m'arrive encore, eh bien, je prends mon cahier de gratitude et j'écris 5 merci. Merci pour des choses qui me sont arrivées. Mmh. Et ça va changer la balance de la journée. Ça va changer la sensation de désespoir ou de tristesse ou de colère qui arrive. Quand on dit merci, on ne peut plus être dans la peur. Donc le merci est vraiment important. Et si vous vous sentez mal dans une journée, un cahier, de quoi noter merci pour l'air que je respire, pour le repas que je partage, pour les gens que je rencontre, etc., etc. Ça nous remet dans le verre à moitié plein de la vie, malgré les mauvaises nouvelles.
Et là, vous avez un premier exercice.
Ce fameux « je t'aime » dont a parlé Claire, effectivement, oui. Ce « je t'aime », c'est ce qui va nous aider à nettoyer, à libérer. Je disais tout à l'heure que le Ho'oponopono traditionnel permettait d'aller à la source et de libérer ce qui avait permis le conflit et qu'on avait certainement oublié. Cette source, ce noyau dur qui avait permis que le mal-être soit libéré et nettoyé, ben là c'est pareil, ce « je t'aime » va permettre de nettoyer ce qu'on appelle des mémoires. Des mémoires dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont toujours présentes. La preuve, les mémoires, elles nous font fonctionner, elles nous continuent à vivre. Il y en a certaines qui, si elles nous ont protégés enfants, une fois adultes, il va falloir s'en libérer. Et c'est à ça que ça sert de dire « je t'aime ». C'est à s'envoyer cette énergie d'amour pour se reconnecter avec ce que l'on souhaite donner le plus à ceux qui nous entourent. Comme je dis toujours, on ne peut pas donner de l'argent si notre porte-monnaie est vide.
Tout à fait.
On ne peut pas donner de l'amour si on n'en a pas déjà reçu. Et si vous voulez donner de l'amour à vos proches, il ne faut pas le chercher. Il faut d'abord que vous en soyez le récepteur, le réceptacle. Et ensuite, vous le mettez, vous le rayonnez. Donc ce « je t'aime », il est vraiment pour soi. Et « je t'aime » à l'intérieur de soi, à cet enfant intérieur, à cette personne, à cette part divine. Et là, vous rayonnez l'amour. Et les autres vont en profiter, bien évidemment.
Eh bien, moi, je vous propose qu'on profite du Ho'oponopono en chanson, en version anglaise, avec comme une sorte d'hymne, en fait, de l'Ho'oponopono qui répète, en fait, ses formules. Et en chanson, parfois, ça peut rentrer davantage et ça peut être aussi très puissant. Vous êtes toujours sur 98.0 FM, des fourmis dans les jambes. de retour sur IDFM avec Gaëlle Piton dans l'émission Des fourmis dans les jambes. Alors après avoir vu un petit peu les origines de cette pratique, moi j'aurais envie de vous poser la question, Claire, d'un cas très concret. Par exemple, oui. Je me dispute avec mon conjoint, je suis hyper énervée. Comment je pratique concrètement Ho'oponopono alors ? Dans Bien. Notre vie de tous les jours.
Ok. Alors, quand on est hyper énervé, faut déjà arriver à shifter pour se dire, tiens, j'ai envie de sortir de ça. Parce que sur le moment, je suis pas sûre que vous y pensiez tout de suite.
Ouais.
Après, à voir. On s'amuse souvent à voir que dans les disputes entre conjoints, d'ailleurs, hein, on pourrait presque mettre à 2 minutes 33, on va parler des vacances 2017, à 2 minutes 48, il va amener ma mère ce jour-là, à 2 minutes 55, on va repenser
au jour. Une petite carte routière des disputes, c'est
absolument,
ça que vous voulez dire?
Absolument, mais oui, parce qu'on est, comme disait Nathalie tout à l'heure, dans un enchâssement de mémoires les unes sur les autres qui font que on a une marmite qui est pleine à l'intérieur et c'est toute la marmite qu'il faut vider. Et c'est cette marmite qu'on va vider avec Ho'oponopono. Alors si vous avez, au moment de la dispute, l'état du cœur, d'être capable de dire à un moment donné, attends, stop, c'est pas du tout ça que j'ai envie pour ma soirée, là, c'est pas ça que je voudrais, on va passer à autre chose, super.
Donc shifter et stop, quoi. Voilà, il faut trouver déjà le moyen de sortir de ce truc-là.
Personnellement, je pense que le meilleur truc que je connaisse, si on arrive à le faire, d'abord c'est d'éclater de rire ensemble, ça fait du bien, mais ça peut être de dire, attends, c'est pas du tout ça que je voulais, on efface et on recommence. Et puis là, on reprend la discussion sur un côté un petit peu plus perso, un petit peu plus concret dans les faits. Parce qu'en fait, ce sont les émotions qui nous mettent en vrille, bien évidemment. Les faits, eux, quels qu'ils soient, ne sont que des faits. C'est la façon dont on va les vivre, les interpréter.
La vision qu'on porte sur cette réalité-là.
Et puis tous les enjeux qu'on va pas dire, hein, quand on commence à se disputer avec le conjoint, c'est parce que oui, il m'a dit ça, mais il se rend pas compte de tout le temps que j'ai passé à préparer autre chose, et puis là, il a l'air de pas tenir compte de ci, de ça, d'autre chose. C'est nos enjeux personnels. Si j'ai envie d'exister, je voudrais qu'il me montre qu'il m'aime, etc., etc. Ou j'avais envie de lui montrer qu'il m'aime, et puis là, il est trop fatigué, du coup, je peux pas apporter ce que j'avais envie. Et du coup, le conflit peut naître d'enjeux différents qui sont pas exprimés. Voilà. Alors, faire Ho'oponopono sur une situation comme celle-là, indépendamment du timing, hein, qu'on arrive à le faire sur le moment ou pas, de toute façon, on part du principe, comme disait Nathalie, on a cette responsabilité de faire le choix de ce qu'on veut vivre. C'est pour ça que je disais qu'on a aussi la capacité de choisir un moment de dire « Stop, c'est pas ça que je veux. On efface et on recommence. » Cette responsabilité-là, on peut la prendre. Quand on est dans Ho'oponopono, les quatre étapes, désolé, pardon, merci, amour, appliquées à une dispute comme celle-là, par exemple, puisque vous voulez un exemple concret, hein. Donc, désolé, c'est en fait, j'ai encore dérapé sur mes émotions, je suis encore partie en vrille sur un truc. J'avais des enjeux précis. C'est vrai, j'ai passé l'après-midi à préparer un gâteau. Il a mangé ça en trois coups de cuillère. Il m'a même pas dit que c'était bon. Zut, quoi. J'aimerais qu'il s'aperçoive que je fais quelque chose parce que j'ai envie qu'il soit content. Ça, c'est mon enjeu intérieur, mais je le dis pas.
Ce sont nos attentes, c'est ça?
Ça fait partie, oui, les attentes font partie des enjeux intérieurs.
D'accord.
Du coup, c'est ça qui va faire que mes émotions vont partir en vrille, alors que peut-être, dans les faits, il y avait rien de spécialement, voilà. Donc, mon immaturité, à ce moment-là, elle consiste peut-être à observer que, j'étais pas en harmonie avec son état à lui tout de suite. Que s'il l'a mangé en trois coups de cuillère, il est peut-être fatigué, il pense à autre chose, il a des raisons pour ça. C'est pas dirigé contre moi, c'est sa façon d'être à ce moment-là. Mais ça, je n'ai pas su le voir. J'ai pas su le voir parce que j'étais dirigée vers moi et ma façon d'être à ce moment-là. Donc la maturité, elle va peut-être être justement dans quelle manière je vais placer de l'harmonie entre nous au moment où j'apporte quelque chose qui pour moi est précieux. Comment est-ce que je prépare ce terrain-là? Comment est-ce que je suis en accord avec lui à ce moment-là?
Donc ça, c'est le désolé.
Ça, c'est désolé.
Okay.
J'ai un petit peu, voilà, j'ai un peu dérapé dans le tapis là. Alors après, le pardon, c'est mais je vais me pardonner d'avoir dérapé parce que en fait, j'avais vraiment cette intention que les choses soient belles entre nous. J'avais vraiment préparé ce gâteau pendant des heures parce que je sais que c'est son gâteau préféré. Je suis allée acheter les ingrédients que j'avais plus. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Par contre, effectivement, j'ai oublié de lui dire. Mais peut-être je penserai à lui dire une prochaine fois parce que la leçon d'aujourd'hui, je l'apprends, je l'entends. Je l'apprends dans mon cœur. Je sais qu'effectivement, une prochaine fois, peut-être j'en parlerai différemment. À ce moment-là, je l'amènerai différemment. Regarde le gâteau que j'ai préparé pour toi. Je suis tellement contente d'avoir fait ton gâteau préféré. Par exemple, tu as une dure journée, je vois bien que tu n'es pas très disponible pour parler, mais justement, savoure ce gâteau, il est pour toi. Là, je suis plus en harmonie avec lui. Donc, je peux me pardonner parce que je saurais dépasser ça. Je vais être capable de prendre conscience de ce que je peux faire de mieux une prochaine fois. Et je vais être capable de prendre conscience qu'il ne fait pas ça contre moi. Personne ne fait rien contre les autres. Personne. C'est l'harmonie entre les deux qui pêche. Ça, ça va être le pardon. Donc je vais pas pouvoir lui en vouloir d'être simplement normal dans sa façon d'être. Quelque part, on est tous normaux dans notre façon d'être. Ce sont des faits. Mmh. Si je pardonne, c'est que je tiens compte du fait que ça se passe comme ça parce que ce sont les faits. Voilà, ça se déroule simplement. Et puis il va y avoir le merci. Le merci, c'est pas facile hein, de dire merci quand on est en colère, hein, parce qu'on a notre ego là qui remonte et qui dit non mais pourquoi ça devrait se passer comme ça.
Pourquoi ce serait à moi de le faire.
Voilà,
c'est la petite comme
phrase.
Réaction.
C'est la petite phrase que j'entends souvent avec les personnes
bien.
Qui viennent me voir. Mais pourquoi ça serait à moi de faire des efforts. Et je réponds en général, mais madame, parce que c'est vous qui êtes en souffrance tout de suite. Parce que c'est vous qui êtes en capacité de réagir. Parce que c'est vous qui, parce que vous êtes demandeuse, avez maintenant le choix. Parce que vous êtes en train de mettre la main sur la responsabilité des choses et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à tous les deux. Et parce que comme vous allez le faire vous, vous allez être contagieuse. Et Ho'oponopono est contagieux, c'est de la contagion. Quand vous changez quelque chose dans un des deux plateaux de la balance, ça change aussi quelque chose de l'autre côté.
Ça fonctionne de manière systémique en fait, c'est-à-dire que si on change sa part à soi, ça change aussi la relation dans le
Absolument.
Système.
Absolument, d'ailleurs c'est à l'origine ce que nous disait Nathalie, hein, ça se faisait en grand groupe. Alors deux, on est loin du grand groupe, mais justement ce partage il existe. Donc le merci, il est vraiment dans la gratitude, parce que la vie me donne l'occasion de prouver que cette personne qui est en train de ronchonner sur mon canapé en bouffant mon gâteau en trois coups de cuillère, mais c'est l'amour de ma vie quoi. C'est l'amour de ma vie.
Ça fait beaucoup rire Nathalie en tout cas.
Je trouve que l'image est très parlante, c'est parfait.
Ouais. Mais oui, mais oui. Et donc cet amour de ma vie, comment je vais lui montrer à quel point il est précieux pour moi? Il sera trop tard si je le fais pas. Parce que j'y pense, c'est le moment de le faire. Et puis du coup, bah le je t'aime, je m'aime moi d'avoir eu envie de donner de l'amour. Je sais pas si vous avez remarqué quand on est dans la gratitude, cette expansion qu'on a au niveau du cœur. Bah c'est ça, c'est l'amour inconditionnel dont vous parliez tout à l'heure. Il est partout, l'amour, il est partout quand on commence à ouvrir les vannes. Bah donc il est entre toi et moi, il est dans notre relation, il est dans l'harmonie entre nous. Bon ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à reprendre un petit morceau de gâteau.
Et à refaire une prochaine fois le gâteau dans d'autres conditions.
Et peut-être. À comprendre qu'on va pouvoir effacer nos mémoires anciennes qui sont pas les bonnes. Le non-attachement à nos mémoires, là, ça fait partie profondément de la philosophie d'Ho'oponopono. De pas s'attacher aux petites choses qui ont rempli la marmite et qui fait qu'à 2 minutes 32 on parlera des vacances 2017 et à 2 minutes 54 on parlera de ta mère, la dernière fois qu'elle est venue, etc. Parce que tout ça, c'est pas important. D'abord, c'est loin, c'est terminé. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est l'instant présent et la valeur qu'on va donner à ce qu'on vit. C'est la gratitude, c'est l'amour, c'est ça qui compte.
Et alors Nathalie, pourquoi alors, une fois qu'on sait ça, qui paraît effectivement une voie de sagesse incroyable, une pratique pour résoudre les conflits, pourquoi ça peut être difficile à appliquer au quotidien dans nos sociétés modernes alors?
Parce qu'on a un mental qui est très fort et qui résiste à tout ce qu'il n'a pas l'habitude de voir, tout simplement. Depuis tout petit, on a des habitudes, on a pris de nos parents des expressions, des croyances que l'on va faire siennes et on va grandir avec ça. Et on se dit que de toute façon, il faut travailler dur pour réussir. C'est comme ça que mes parents m'ont appris. Dans un couple, si je veux avoir la sensation d'être aimée, il faut que cette personne soit toujours avenante, présente envers moi. Et si elle n'est pas, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Hein, quand elle mange son gâteau qu'on a fait avec amour en 5 minutes.
Je penserai à vous la prochaine fois que je vais faire un gâteau.
Voilà, on va grandir avec ça et ça va devenir une habitude, ça va devenir quelque chose de plus qu'une habitude, ça va devenir une évidence. C'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que le monde fonctionne, enfin mon monde fonctionne, et on perd la visibilité de se dire que chez les autres, ben, c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être que pour votre mari qui a mangé goulûment ce gâteau, pour lui c'était marqué, le fait de manger goulûment ce gâteau, c'était peut-être pour lui une façon d'exprimer ce plaisir, d'être ravi d'avoir eu ce gâteau, et voilà. Mais dans votre univers à vous, ça ne se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est une question de vision du monde. Nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses et personne n'a raison.
On n'a pas été élevé par les mêmes personnes, donc on n'a pas été élevé avec les mêmes valeurs, tout simplement, hein, que ce soit familial, que ce soit culturel ou collectif. Tout ça, c'est ce qu'on va absorber. Et on va, quand on est enfant, on va garder ces valeurs, on va grandir avec. Il y a un moment donné, et on s'aperçoit que ça commence à faire aux entournures que lorsqu'on se retrouve face à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, eh bien le conflit arrive parce que ces personnes ne pensent pas comme nous. Nous, on dit toujours, de toute façon, c'est moi qui ai raison, c'est comme ça que ça se fait, et ce que tu as fait, ça ne se fait pas du tout, personne n'agit comme ça. Vous voyez, c'est ces réflexions qu'on peut se dire ou qu'on peut dire, entendre dire. Voilà, ça vient de cette réaction en disant ben, dans mon univers, ça ne se fait pas de manger goulûment le gâteau, il faut faire autrement. Et on réagit fortement à tout ça. Et qui est-ce qui se nourrit de ses croyances et de ses mémoires pendant toute une existence? C'est ce qu'on appelle le mental, l'ego. L'ego qui est très intéressant pour tout ce qui est fabrication d'un ordinateur, utiliser l'informatique, utiliser une voiture, il sait parfaitement utiliser tout ça. Seulement, le mental va faire la même chose avec les émotions, il va vouloir les gérer des mêmes façons qu'une voiture. C'est-à-dire qu'une équation mathématique qui était réelle, qui était bonne il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui, l'équation mathématique, il y a peu de chance pour qu'elle ait changé. Une voiture, quand on a appris à la conduire il y a 30 ou 40 ans, quand vous prenez un véhicule aujourd'hui, ça se conduit toujours de la même façon. Mmh. Et ben, il va faire la même chose avec les émotions. C'est-à-dire que votre façon de gérer les émotions quand vous aviez 5 ou 7 ans, et ben vous allez continuer
à l'avoir la même.
Sauf que voilà, le mental a oublié que vous avez grandi, que votre environnement a changé, que les gens autour de vous ne sont plus les mêmes, bref, qu'il y a beaucoup d'autres façons de réagir. Et c'est en ça que le mental est compliqué à gérer, je veux dire, à mettre en paix en me disant bah, écoute, ton boulot, c'est de conduire les voitures, utiliser un ordinateur, on est bien d'accord. Mais maintenant, moi, pour mes émotions, j'ai besoin de place, de leur faire de la place et d'envoyer désolé, pardon, merci, je t'aime en soi et en silence, en boucle, permet de créer cet espace que votre mental n'est pas capable de faire. Moi, j'ai besoin de la place pour gérer ces émotions, pour les regarder, pour voir ce qui se passe, prendre de la distance. Et une fois que j'aurai fait ce refrain, désolé, pardon, merci, je t'aime, plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de limite à ça, je vais pouvoir prendre de la distance par rapport à la situation, par rapport à ce qui s'arrive, par rapport à la personne, et avoir une réaction très différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir.
Très différente de nos conditionnements. Et en ça, c'est vraiment une vraie pratique.
De conditionnement.
Et un exercice. Alors, heureusement, il y a des gens comme vous qui pensent à nous faire des petits pense-bêtes, des petites choses qui vont nous rappeler comment pratiquer. Vous, Claire, vous avez créé un jeu de cartes, jeu de tirage.
Oui.
C'est un très bel objet. Je vous mettrai, chers auditeurs, les photos sur la page Facebook de l'émission.
Oui, je les ai regardées, elles sont super belles.
Oui, avec des belles illustrations de Lina, c'est ça?
Les illustrations de Lina sont absolument très, très inspirées, très, très belles, oui.
Alors, est-ce que vous pourriez, Claire, nous en dire quelques petits mots? C'est aussi une pratique qui permet de se rappeler la pratique de l'Oponopono, mais sous forme ludique. Ça consiste en quoi, votre jeu de cartes, alors?
Alors, en fait, Nathalie a tout à fait raison de le signaler. Quand on répète en mantra, en boucle, les quatre mots d'Oponopono, on a fait tout le boulot qu'il y avait à faire. Le jeu, c'est le petit plus pour se faire plaisir. C'est parce que ça donne un support et puis qu'avoir un support, ça aide. Parfois, mais dans le jeu, l'idée c'est pas forcément, enfin c'est à côté de la pratique, c'est pour aller plus loin, on va dire. Mon idée quand j'ai fait ce jeu, c'était de dire, Ho'oponopono nous apaise sur des conflits, nous permet de prendre de conscience éventuellement de certaines situations dans lesquelles nos émotions sont un peu en vrac, mais j'avais envie moi qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on découvre un contenu. Voilà, un contenu dans ce qui se passe, une forme d'analyse quelque part. Donc en fait, j'ai fait un jeu avec quatre familles de cartes, une pour chaque mot. La première famille de cartes, celle de l'enfant, c'est la famille du mot « désolé », donc de l'immaturité.
Donc et à donc, chaque fois, il y a une petite fille qui est dessinée, enfin un enfant qui est dessiné, enfant. Voilà.
Voilà.
Et là, si je parcours, il y a le mot « valeur », »,« amour », »,« inspiration », »,« acceptation », il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est la première famille.
Voilà, il y en a 18. Alors, elles sont choisies, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Elles sont choisies spécialement. Voilà, c'est ça. Elles sont choisies spécialement pour dire que ce sont 18 domaines dans lesquels il peut nous arriver d'avoir un petit loupé en termes de maturité.
D'accord.
Et elles sont choisies spécifiquement parce que en les additionnant les unes aux autres, on arrive à notre puissance illimitée à nous. Celle qu'on a tellement de mal à accepter parce que En fait, notre plus grande peur, c'est d'être puissant, d'avoir ce choix, comme disait Nathalie, d'avoir cette responsabilité et de devoir en faire quelque chose, ça, c'est terrifiant. Du coup, ce sont 18 domaines qui connectés les uns aux autres, nous apportent à cette puissance illimitée. Donc, quand on va faire un tirage sur une situation donnée, on va prendre en aveugle une des cartes de la famille désolée et on va avoir un aperçu d'un domaine dans lequel peut-être cette situation a eu un petit loupé. Et puis on cherche et on trouve. Puis dans la notice, il y a des éléments d'inspiration pour trouver justement comment on peut l'accorder. La deuxième famille, celle de la mère, c'est de la famille, donc pardon. J'ai proposé à la maman, puisqu'elle accompagne, puis une maman, ça donne volontiers la main, de nous aider à comprendre nos ressentis. Moi, en tant que thérapeute, il y a une chose que je remarque, c'est que les gens ne voient pas forcément quand ils sont pas bien, à quel point ils sont pas bien, et du coup, quand ils sont mieux, ils se rendent pas compte qu'ils sont mieux, puisqu'ils avaient pas mesuré. Et en fait, on n'a pas l'habitude de faire trop attention à nos ressentis, à mesurer ce qui nous arrive, à comprendre l'origine, etc. Donc, la maman, dans le jeu, elle a 6 cartes, et je lui ai proposé de nous inspirer des réponses à une question en particulier sur l'évaluation du ressenti, sur l'origine du ressenti, sur à quoi ça nous connecte, etc. Donc chacune des six cartes de la mère, c'est une question par rapport à ce qu'on ressent. Le père, lui, comme il est là pour dire merci, la gratitude, etc., bah, il a ce côté merveilleux, j'allais dire, hein. Et ce côté merveilleux, je lui ai proposé dans le jeu, à travers 6 cartes, de nous donner un autre regard à poser sur la situation. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, hein. Il y a les 6 cartes, il y en a qui sont plus exigeantes.
L'humilité, la compassion qui sont...
L'humilité, la compassion, ça tombe de soi que si on veut régler une situation en mettant de l'humilité ou de la compassion, on va pouvoir plus facilement. Mmh. Mais quand on met la gratitude ou la bienveillance, ça va encore. Quand on met la gratitude, j'ai beaucoup de gens qui me disent non mais de la gratitude dans le conflit là. Mais oui, c'est le sens du mot merci de toute façon, hein. Mais c'est pareil, pour accompagner dans la notice, il y a aussi un petit rappel de toutes ces valeurs là. Et puis la quatrième famille, eh bien, c'est celle du moi supérieur, du moi divin, on l'appelle comme on veut. J'ai proposé dans les 6 cartes de cette famille, de, en en tirant une aussi dans la situation, de découvrir quelle est la part de nous, la part spirituelle de nous qui est en train de grandir à ce moment-là. Donc ça peut être le non-attachement, ça peut être le pouvoir illimité justement, ou la confiance en la vie. Ou le lâcher prise, et puis finalement la joie.
Donc ça, c'est le jeu Ho'oponopono 2.0. Voilà. L'éditeur, c'est Ecce Edition. Et ça peut être un petit rappel en complément, évidemment, de la pratique.
Voilà.
Et vous, Nathalie, vous nous invitez à voir comment est-ce qu'on peut donc vous parlez du Feng Shui, là, en ouverture de l'émission. Vous avez créé, vous, une méthode qui s'appelle Home, avec le jeu de mots, effectivement, entre Ho'oponopono et Home, la maison. Alors, on peut faire ça dans notre maison?
Oui, bien sûr, utiliser sa maison comme... en fait, la maison est le miroir de notre existence. Et les blocages qu'on peut avoir dans sa vie sont représentés de façon plus physique dans son habitat. C'est sûr que le fait d'avoir travaillé en Feng Shui m'a permis d'avoir ce regard, mais lorsque l'on se détache de la boussole et de toutes ces normes très contraintes du Feng Shui, on pose le regard sur un lieu de vie, on se rend compte qu'effectivement c'est le reflet de notre existence. Et donner, par exemple, il y a Marie Kondo qui aujourd'hui a beaucoup de succès,
elle
a écrit Le Rangement, et je trouve que c'est un bon outil que de commencer par entrer dans un tiroir qu'on doit ranger.
La magie du rangement, oui, tout à fait.
Qui s'est accumulé dans ce tiroir. Ouais. Et quand on nettoie son tiroir, on nettoie sa vie, on nettoie ses mémoires, on nettoie son existence. Et voilà, c'est le lien que j'ai fait avec le Ho'oponopono, parce que, contrairement à Claire, moi je n'ai pas eu du tout d'éducation religieuse, je suis issue d'une famille athée. Et avec le Ho'oponopono, je me suis découvert un chemin vers la spiritualité qui répondait vraiment à ma recherche, et comprendre qu'on avait ce potentiel dont parle Claire, ce pouvoir intérieur qui est à notre disposition, mais à la fois effrayant et en même temps jubilatoire. Pour moi, c'est ça notre part divine, notre spiritualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, je parle du Ho'oponopono beaucoup sur Facebook, hein, je fais des lives, j'interviens pour répondre aux questionnements des personnes qui se sont lancées dans la pratique. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce qu'il faut le rendre accessible. Je suis ravie que Claire ait fait ce jeu, qui m'a l'air vraiment sympathique.
Merci, Nathalie. Vous avez le droit d'échanger après l'émission toutes les deux. Hein. Il n'y a pas de souci.
C'est vraiment génial. Une chose que je voulais donner aux auditeurs, c'est que pour entrer dans la pratique du Ho'oponopono, C'est bien de commencer à lancer ces mots qui sont « désolé, pardon, merci, je t'aime » en soi, en silence, alors que tout va bien, que vous n'avez pas de problème, ne serait-ce que pour vous entraîner. Il faut que ce petit moulin soit dans la tête, de façon à ce qu'il devienne une nouvelle habitude, parce que dans notre tête, dans notre mental, il y a plutôt des phrases du genre « je suis nul, j'y arrive pas, je n'arrive pas, j'y arriverai jamais. »«
Tu m'agaces. » »«
Mais pour qui je suis là ?» Donc, au lieu de tourner ça dans notre tête, eh bien, de lancer « désolé, pardon, merci, je t'aime » en boucle, régulièrement, quand vous marchez, vous faites une balade, vous faites une activité sportive, bref, et de d'entrer dans cette énergie, dans cette dynamique cérébrale, pour que au moment où il y a un conflit qui surgit, quelque chose de vraiment difficile qui apparaît, eh bien, on puisse avoir cette possibilité de lancer « désolé, pardon, merci, je t'aime », sans avoir trop besoin d'y réfléchir.
S'entraîner en eau calme pour être prêt pour la tempête.
Parce que tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez dit clair sur la signification de ces mots, évidemment, dans les moments où ça ne va pas, on ne peut pas y penser. Et on vous demande surtout de ne pas y penser. C'est simplement parce que voilà, vous recevez une mauvaise nouvelle, vous venez de vous discuter avec votre conjoint. Lancez simplement les mots, point. Sans avoir d'attente, sans vous dire que bah, avec ça, il va venir s'excuser ou il va se passer je ne sais quel miracle. Non, non. Lancez simplement
pour s'en imprégner.
Désolé, pardon, merci, je t'aime, sur l'émotion que vous vivez. Et de cette façon, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à la situation, bien sûr, mais aussi à l'émotion. Hein. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, affligé, donc de pouvoir la regarder et de l'accueillir et d'en faire... ensuite, on pourra la transformer.
C'est un premier pas, en tout cas, pour les auditeurs qui les invitent à aller plus loin. Alors, malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. Ça passe toujours très vite. Si vous voulez retrouver des informations complémentaires sur mes invités, Claire, www.claireburel.com et pour Nathalie, www.vivreoponopono.com. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. J'étais ravie. Merci aux auditeurs d'avoir été là. Merci à Philippe pour la technique.